Vous écoutez l'émission Portrait d'un colonialiste.
On est aujourd'hui à Howara, dont on va parler principalement, et on va également parler de récolte d'olives. Howara est une ville palestinienne de la Cisjordanie. Petit récap historique. À l'aide du colonialisme anglais, le sionisme, qui est une idéologie juive bourgeoise d'Europe de l'Est, enfin, notamment de l'Autriche et de l'Allemagne, cette idéologie est une idéologie nationaliste qui veut pour les juifs une terre et créer surtout un État. À l'aide du colonialisme de l'époque, du coup, il est introduit et privilégié par le colonialisme anglais, et le sionisme cherche différentes terres et choisit au final la Palestine. Par la suite, il y aura la Nakba, où les sionistes qui constituent l'État ou qui constitueront l'État israélien expulsent ou tuent les Palestiniens sur une grande partie de la Palestine pour les faire fuir ou pour réaliser ce qu'on appelle un nettoyage ethnique. Donc au final, il s'accapare les sionistes une grosse partie de la Palestine, sauf la Cisjordanie et Gaza. Jusqu'en 67, où ils occupent Gaza et la Cisjordanie, et depuis, la Cisjordanie est toujours sous occupation israélienne. Les accords d'Oslo n'ont absolument rien changé, voire ont permis plus de colonies, plus de colonisation. Concernant la division du territoire par les accords d'Oslo, on peut même lire dans le guide du routard, qui n'est pas du coup un livre d'extrême gauche, mais un livre de voyage pour avoir les meilleurs plans. Il est quand même marqué, donc c'est bien à la signature de l'accord intérimaire d'Oslo en 93 qu'il y a eu l'instauration de principe de trois zones administratives en Cisjordanie. Donc la zone A, où 18% du territoire et 54% de la population, et que ça se trouve en fait cette zone A dans les grandes villes palestiniennes. Dans cette zone A, c'est l'autorité palestinienne qui exerce une souveraineté complète. Bon, dans les faits, si l'armée israélienne veut venir, elle y vient. La zone B, qui est 20% du territoire et 40% de la population, c'est une zone majoritairement rurale et sous administration civile palestinienne, mais sous contrôle sécuritaire conjointe. Ce qui veut dire que c'est la police et l'armée israélienne qui contrôlent. Et il est marqué dans le guide du routard, entre guillemets, partage peu clair dans les faits également. Dans la zone C, du coup, qui est la troisième découpage et qui représente 62% du territoire de la Cisjordanie et 6% de la population, donc il y a majoritairement la vallée du Jourdain. Et c'est une zone qui est sous contrôle complet militaire et civil israélien. Je dis bien civil israélien. Après la question historique, la question géographique, Howara est donc une petite ville au nord de la Cisjordanie, au sud de la grande ville de Naplouse. Elle se situe dans un espace un peu plat, entre deux chaînes de collines, et constitue donc un pont stratégique qui relie le nord au sud de la Cisjordanie. En bruit de fond, à Howara, on peut entendre les camions faire des allers-retours depuis une exploitation de pierre juste à côté, qu'on appelle ici l'or blanc. Howara est donc au creux de la vallée, et autour de cette petite ville, comme partout en Cisjordanie, depuis des années, il s'est construit de nombreuses colonies. Howara est donc entouré par Yitzhar, Ariel, l'une des plus grosses colonies de Cisjordanie, Kfar Tapouach, Tafor et Bracha. Peut-être que j'en oublie. Il y a d'ailleurs un nouvel avant-poste présent depuis 3 mois. Mais qu'est-ce que ça signifie? Les colonies avancent par avant-poste. Les jeunes Israéliens s'approprient le haut d'une colline, ils le revendiquent comme sienne, et les Palestiniens ne peuvent rien faire. Car les colons sont protégés par l'État israélien. Ensuite, les colons agressent les Palestiniens, ou les tuent, pour leur faire peur, puis ils s'approprient leurs terres, leurs oliviers, leurs lieux de culte, leur histoire. Dans les faits, un matin, en allant au village, au bord de la route, il n'y a que des drapeaux israéliens qui marquent la nouvelle limite de la colonie qui s'est agrandie. Dans les faits, ça peut aussi être la question de l'accès à l'eau. Alors que c'est l'eau du village palestinien depuis toujours et que les colons y ont accès, ces colons, ou l'État israélien, décident que les Palestiniens n'ont plus à avoir accès à cette eau. Ils la privatisent pour eux, pour leurs animaux, ou même pour en faire une base de loisirs. Déjà que dans les faits, toute la Cisjordanie est occupée par Israël, son armée et sa police, et en plus toute une partie des terres de la Cisjordanie est aussi volée par une autre armée, les colons, qui sont des citoyens israéliens avec tous les droits. Ils portent des armes, ont le droit d'insulter, de frapper et de tuer les Palestiniens. Droit de détruire ou de voler leurs maisons, leurs voitures, leurs oliviers. Tout ce qui fait la vie de la Palestine, ils ont le droit de le prendre et sont même encouragés par leur État sioniste, Israël. Si on parle maintenant de la récolte des olives et de l'huile d'olive qui sont au centre de la culture palestinienne, notamment car ils la mangent, car il y a toute la cuisine palestinienne qui est basée sur l'huile d'olive, car il y a aussi les savons ici qui sont à base d'huile d'olive, car lorsque l'on presse les olives pour avoir de l'huile d'olive, on récupère un broyat, le broyat des olives, et que cela sert de combustible l'hiver pour les familles. La récolte des huiles d'olive est une activité que beaucoup de Palestiniens et Palestiniennes pratiquent, mais que majoritairement ce sont des paysans et des paysannes qui le font. L'olive et son huile sont des éléments de partage et de lien entre les Palestiniens et Palestiniennes. Il est donc normal que le colon essaie de casser ça. Et c'est dans un contexte de génocide à Gaza et de colonisation, toujours plus intense, de la Cisjordanie, que des internationaux sont venus en solidarité, comme depuis plusieurs années, pour aider à la récolte des olives. Notamment car depuis 2023, le nombre de nouvelles colonies est passé de 5 nouveaux avant-postes par an à 47 nouveaux avant-postes par an. Les colons sont de plus en plus violents. Le but, avant même de ramasser les olives avec ces internationaux, c'est de se donner du courage ensemble, pour oser aller sur les terres prises ou menacées par ces colons. Ces internationaux viennent dans le cadre d'une campagne commune de plusieurs associations palestiniennes pour la récolte des olives. On va écouter Pauline qui nous raconte l'arrestation et l'expulsion de 32 de ces internationaux qui aidaient à la récolte à Hawara. Bonjour Pauline, tu m'entends ?
Oui, bonjour, je t'entends.
Du coup, que dire? Toi, tu veux rajouter des choses par rapport à cette campagne et le but d'être venu en Cisjordanie pour participer à une campagne de plusieurs associations palestiniennes qui appelaient des internationaux à venir aider à la récolte des olives?
Non, je pense que tu as été assez clair dans ta description de la solidarité amenée auprès des Palestiniens de la part des volontaires internationaux.
Et du coup, dans ces quelques jours où il y a eu
des moments de récolte des olives, il y a eu aussi surtout des arrestations. En vrai, il y a eu un jour de récolte où on était présents et on était à 33 internationaux et il y a eu...
Alors, ce jour-là, ça a été assez différent des autres fois où on a été récolté et aidé les fermiers, parce qu'on s'est retrouvés en. Normalement, on était en petits groupes, et là, ce jour-là, on était un gros groupe de 33 personnes, 33 internationaux, à venir en aide à deux fermiers. Normalement, on n'avait pas cette habitude-là d'être en gros groupe, normalement, on était plutôt une dizaine ou une douzaine. Et dès le matin, on a senti quand même pas mal de tension déjà de la part des colons et de l'armée. Et après avoir été congédié d'une première parcelle, on s'est retrouvé sur une seconde où encore une fois, une voiture de l'armée est venue nous inciter à nous déplacer et à sortir de cette parcelle, ce qu'on a fait.
Du coup, juste pour situer 2 secondes, comment moi je me rappelle, c'est-à-dire que la parcelle était quasiment en face d'une maison et qu'il y avait juste une route qui séparait. Du coup, on est parti de la maison, on a traversé la route et on a récolté de l'autre côté de la route.
Et c'est là, du coup, qu'un pick-up de l'armée est venu nous intercepter en nous demandant de partir et de requitter cette parcelle-là.
Alors je
Ce
me
qu'on
permets
a fait,
de couper,
on
mais
a retraversé.
je suis pas tout à fait sûr que c'était un pick-up de l'armée, parce que la plaque était une plaque israélienne, et que je me demande si c'était pas un colon qui avait un uniforme de l'armée. Mais la plaque n'était pas une plaque de l'armée, c'était pas une plaque noire. Mais comme les colons sont aussi des personnes armées et qui ont des... Comment?
Le pick-up, il n'était pas floqué non plus. Il n'y avait aucun signe distinctif que c'était de l'armée, mais en tout cas, lui était en costume militaire avec ses armes aussi militaires. Du coup, étant donné qu'on ne savait pas trop qui était cette personne et quelle était son autorité, s'il avait l'autorité de l'armée ou même s'il était juste menaçant en tant que colon, on a décidé de rentrer à la maison et de prendre un temps pour se poser et de prendre un petit thé avec de quoi grignoter pour se remettre un peu de ses émotions, étant donné que c'était quand même assez tendu toute la matinée.
Du coup, effectivement, il y a une devant la maison, il y avait une petite entrée, une petite place après la barrière.
Alors, moi, ce dont je me souviens, c'est que j'étais rentrée dans la maison à ce moment-là, enfin dans l'espèce de grange qu'il y avait. Et à un moment donné, en fait, j'ai constaté que dans la cour, effectivement, il y avait pas mal de gens qui ne faisaient pas partie de notre groupe internationaux. Et c'est là que j'ai pu constater qu'effectivement, il y avait un camion de l'armée avec pas mal de soldats déjà dans la cour. Et derrière, effectivement, et sur la route, des colons qui étaient là en train de nous filmer, ils étaient armés aussi. Et en gros, on était nassés et on ne pouvait plus partir de cette cour ni du jardin. On n'avait rien à se reprocher. On a attendu que la police israélienne vienne, étant donné qu'on était encore dans le jardin de ce paysan et qu'on ne faisait absolument rien de mal.
Et par la suite, tout le monde a été emmené dans un bus.
Et ensuite, on nous a expliqué qu'on allait monter dans un bus pour être relâché dans une zone qui ne serait pas une zone militaire. Donc, on pensait juste qu'on allait devoir monter dans le bus et partir un peu plus loin, peut-être dans la ville d'Ouala. Et c'est là qu'en fait, finalement, on a pu tous monter dans le bus et être amenés à Ariel, l'une des plus grandes colonies de la West Bank, où on a été au commissariat. De là, ils nous ont enfermés dans une petite pièce. On a attendu assez longtemps jusqu'à ce qu'ils nous prennent nos téléphones. Ils avaient déjà en leur possession tous nos passeports. Puis ils nous ont amenés quelques heures après à la frontière jordanienne, où là a commencé un interrogatoire pour six internationaux pour les questionner. Nous, on attendait dans le bus. À un moment donné, moi, ils sont venus me chercher dans le bus. Et donc, je me suis retrouvée à être interrogée par deux personnes qui me disaient que si je signais tout de suite un document, je pourrais être expulsée du pays sans que je sois fichée, sans qu'il n'y ait de dossier sur moi. Ou sinon, auquel cas je refuse de signer ce document-là, il y aurait toute une investigation sur moi pour savoir ce que je faisais là, dans cette zone militaire, chez ce paysan. Donc moi, étant donné que je ne me sentais pas coupable, j'ai préféré ne pas signer et dire que je préférais avoir un interrogatoire pour démontrer que je ne faisais rien de mal et que je n'étais pas avertie que j'étais sur une zone militaire. Puis ensuite, on est reparti après avoir passé quelques heures à la frontière et on est retourné au commissariat d'Ariel où là, un à un, les 32 qu'on était ont été interviewés, interrogés. On a dû donner nos empreintes, on a dû faire des photos. On a été tous amenés à la police des frontières près de l'aéroport à Tel Aviv, où là, encore une fois, on a été repris en photo, on a dû redonner des empreintes et on a encore été interrogés ou interviewés. Comme ça. Et ça jusqu'à... Moi, je suis passée vers 9h30 du matin. Donc là, ça faisait déjà 24 heures qu'on avait été enlevés par les forces de l'ordre israéliennes. On a été amenés au centre de détention de Givon, à Ramla. Je crois que ça s'appelle comme ça, la ville. Et donc, on est arrivé là et on ne savait pas ce qui se passait, on ne savait pas où on était. On a questionné un petit peu pour savoir si on avait le droit de passer des coups de fil, si on avait des droits encore ou pas. Et on nous disait rien ou alors on nous a pas mal menti en nous disant qu'on pourrait passer des coups de fil dans 5 minutes, et puis finalement non. Donc en fait, c'est là que ça a commencé, cette attente très longue. On a eu le droit à une visite d'un médecin qui du coup a pu donner la moitié des médicaments à certaines d'entre nous qui avaient quand même des besoins vitaux de médicaments et elles n'ont pas pu y avoir accès pas avant 3 jours de détention.
Et vous avez été expulsé le mardi.
On a été ramené en bus à la frontière jordanienne à Allenby où nos consuls respectifs nous ont accueillis et voilà, ils nous ont pris en charge jusqu'à Amman, la capitale.
Du coup, il y a une répression sur les internationaux qui sont présents pour aider les Palestiniens. Il y a une forme de torture légère que vous avez subie, qui n'est pas la même torture que subissent les Palestiniens, mais une privation de liberté, une privation de certains médicaments, une privation des complexités de pouvoir subvenir à certains de ses besoins vitaux. Comment toi tu vois le fait qu'il y a eu cette répression sur des internationaux?
Pour moi, cette répression, elle est liée au fait que ben, étant donné qu'on fait du volontariat international, c'est vrai qu'on vient en aide, pas en aide, c'est pas le terme, mais en solidarité avec les paysans, et que ça leur donne la force, en fait, de continuer à aller sur les parcelles où ils ont pu être menacés, où ils ont déjà été privés de leur récolte, et voire même frappés sur certaines parcelles par les colons. Et donc, en fait, le fait qu'ils aient encore cette force et ce courage de revenir sur leur parcelle, ça entrave l'autorité de l'armée israélienne et des colons. Et donc, de ce fait, je pense qu'ils ont trouvé ce moyen de réprimander des internationaux pour montrer que même cette force que les Palestiniens pouvaient avoir grâce à notre présence leur était aussi enlevée. Comme peut l'être leur terre ou leur tradition avec la récolte des olives. Effectivement, nous, on a subi de la répression, on nous a coupé on nous a privé de pas mal de liberté, mais je pense que face à la répression que subissent les Palestiniens, c'était pas aussi important que pour eux.
Eh bien voilà, merci à Pauline pour son témoignage. On voit bien que le but ici est d'isoler les Palestiniens de toute solidarité internationale. Et effectivement, la répression des internationaux n'a rien à voir avec celle que subissent les Palestiniens. Pour les deux fermiers, par exemple, chez qui on était, on pensait qu'ils avaient été relâchés très rapidement. Mais finalement, non. Dans les premières infos qu'on a, il semblerait qu'ils ont été en prison plusieurs jours et qu'ils aient été battus. L'apartheid israélien, c'est aussi ça. Des lois qui ne sont pas les mêmes en fonction des citoyens. Les Palestiniens de Cisjordanie, par exemple, y compris les mineurs, sont jugés devant les tribunaux militaires israéliens. Ils sont soumis à la détention administrative. Ce qui permet à Israël de détenir les Palestiniens sans procès ni inculpation, pour des périodes de 6 mois renouvelables indéfiniment. Donc sur la base de preuves dites secrètes, que ni l'accusé ni l'avocat ne peuvent consulter. Le taux de condamnation des Palestiniens est de plus de 99%. Un exemple parmi tant d'autres, Ahmad Masra. Il avait 13 ans lorsque lui et son cousin ont été attaqués par des colons. Son cousin a été tué, et dans des circonstances qui restent floues, c'est lui, et non ses agresseurs, qui ont fini en prison, où il se trouve toujours, depuis 2015. À Howara, je monte dans la voiture de Bilal. Je sais peu de choses de lui, si ce n'est que son père est mort sur un checkpoint alors qu'il n'avait que 12 ans. Bilal me fait visiter les alentours. Nous allons vers Beïta, le village juste à côté, à 500 mètres d'où nous sommes. En rentrant dans la ville, on passe sous une voie rapide. Bilal m'explique que c'est là qu'on lui a pris ses 70 oliviers pour ne lui en laisser que 15. Nous passons par le centre du village. Sur la place, il y a un mémorial récent des martyrs du village. Ce mémorial ressemble à ceux que l'on voit dans chaque village de France, où sont inscrits les noms des martyrs français morts pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. On monte avec son fils jusqu'en haut de la colline Armi. Nous sommes sur la haute colline Arme, située dans le village de Beïta. Sur cette colline, les colons ont essayé de l'occuper et ils ont essayé de la contrôler. Mais les habitants de Beïta ont résisté. il y a eu beaucoup de martyrs à Baïta. Ils les ont fait sortir de cette colline-là. Et Dieu merci, cette colline est revenue aux habitants de Baïta. Et comme tu peux le voir, cette colline est revenue à sa famille. Nous, on est actuellement dans la région de Naplouse. Dans la région des villages de Naplouse, il y a les colons qui sont présents. C'est ce que l'on voit ici, pas loin de nous. Il y a la montagne de Zbeh que les colons et l'occupant israélien a pris le 7 octobre. Et encore une fois, il y a eu une lutte et beaucoup de martyrs sont partis. Mais l'occupant l'a contrôlé, occupé par la force. C'est ça la situation en Palestine. La résistance s'est faite avec les pierres, avec des choses simples, basiques. Il n'y a pas d'armes, c'est tout. Aujourd'hui, la résistance, mais tu sais comment c'est. Les sionistes nous tirent dessus sans raison. Juste parce qu'on défend notre terre, c'est ça la raison. Celui qui défend sa terre, il le tue. Et toi, tu as vu de tes propres yeux comment est l'occupation et comment est la vie en Palestine. Toi, tu entendais en France, sur la Palestine, la situation de l'occupation. Mais toi, c'est la première fois que tu viens en Palestine et tu as vu de tes propres yeux comment nous, on vit, comment est la vie des Palestiniens. Nous, on est un peuple, on cherche la vie, on cherche à vivre, on veut éduquer les bébés, les enfants, que les enfants vivent dans la paix, qu'ils aient une vie normale, stable. Ils n'aiment pas les problèmes, les enfants. Et nous, on ne veut pas de problèmes. Mais nous, on vit sous l'occupation. Et c'est l'occupation la plus dure présente dans le monde. L'occupation israélienne. Le lendemain, avec Bilal et ses deux fils, des jumeaux, nous faisons le tour de cinq villages proches de Howara. Il y a six checkpoints sur la route. Quand on dit checkpoint, ce sont les endroits où d'énormes barrières sont déposées pour fermer la route à tout moment. J'ai l'impression qu'il y a différents checkpoints. Il y a ceux où il y a un baraquement pour les soldats et ceux où il n'y en a pas. Quand il n'y a pas de baraquement, si les barrières sont à l'entrée et sortie des villages, elles sont régulièrement fermées et ouvertes à l'improviste. Un seul soldat peut fermer tout un village. C'est ce qui arrive souvent. Tu ne sais jamais quand ils vont fermer. C'est la perversion coloniale, faire chier le plus possible. Et quand il y a un baraquement pour les soldats, ça peut être un arrêt total. Juste une présence des soldats et tu passes chacun ton tour, ou une fouille approfondie qui crée d'énormes embouteillages. Ça aussi, tu ne sais jamais quand ça arrive. Sur les 6 checkpoints que l'on a croisés, 4 sont fermés, et pour 2 d'entre eux, les Palestiniens se sont fabriqués des chemins pour les contourner. Juste à côté, en aplatissant un talus, ou en retirant les pierres et remplissant les fossés qui empêchaient la traversée. Sur la route du retour, on écoute la radio.
مشوية
لبيك يا عطشان لبيك يا
الكرم طابيهم درس بالروح القتالية، حيوا مخيم نور شمس وحيوا الجبعاوية، أحمد الجبعاوي الحر منه العدو ذاك المر، يصد اقتحامه ما يثر بصفوف الأمامية، أسيد الجبعاوي ثار قالهم الموت ولا العار، كبار وبتضلوا كبار انتم الجبعاوية، انتم الجبعاوية.
Je suis dans un jardin avec Asma. T'as des choses ou des exemples à nous donner de stratégies d'empêchement du système colonial israélien qui fait qu'en fait ça nuit à la vie des Palestiniens et des Palestiniennes, et en tout cas une technique coloniale qui tente de prendre les terres ou d'empêcher les Palestiniens de s'exprimer et de revendiquer leur territoire.
Du coup, avant même le 7 octobre, les colons descendaient souvent en fait sur les routes qui sont utilisées, la route principale de Hawara qui est utilisée par les habitants palestiniens, par les colons de toutes les colonies qui sont du nord au sud et autour de Hawara, et par les soldats de l'occupation aussi. Et les habitants ici sont malheureusement habitués en fait à la descente de colons en fait, vu qu'ils sont situés au-dessus des collines, ils descendent souvent en fait pour sur les commerces qui sont sur la route principale de Hawara. Et c'est souvent des dérangements au final en saccageant leur commerce, des fois en brûlant leur commerce, leur maison. Et avec la présence aussi des soldats israéliens qui eux normalement sont censés en fait les arrêter ou les repousser, en tout cas qu'ils ne dérangent pas au final, qu'ils font que de passer, mais dans le réel c'est pas vraiment ce qui se passe au final.
Et du coup, si on parle de après le 7 octobre, toi tu as vu une différence sur Hawara, son activité, les gens, etc.
Les personnes qui passent en fait du nord, les personnes qui viennent du nord, c'est Jenin, qui vont vers Ramallah. Du coup, les personnes qui utilisent cette route, en fait, c'est surtout pour aller de en fait, c'est les villageois qui vont en ville, surtout vers Naplouse, ou bien des personnes qui viennent du nord de Naplouse qui se dirigent vers le sud. Ils ont fermé la route. En fait, c'était déjà avant le 7 octobre. Il y avait déjà une route qui était fermée. Qui fait qu'on ne pouvait plus rentrer en ville tranquillement, on est obligé de faire des grands détours. Après le 7 octobre, ils ont fait des barrages dans tous les villages qui menaient directement à la ville de Naplouse. Ce qui fait que de Hawara pour aller à Naplouse, ce qui mettait 10 minutes en voiture, maintenant met 3 heures pour y aller. Ce qui handicape en fait, par exemple, toutes les personnes qui vont travailler, qui se rendent à leur lieu de travail, ou bien inversement, les gens de ville qui vont ailleurs, comme par exemple à Ramallah ou à Jenin ou à. et qu'ils ont du mal du coup à s'y rendre parce que les checkpoints en fait sont fermés. C'est des fouilles de voitures, c'est des fouilles de cartes d'identité, de pourquoi vous sortez. C'est dans la nécessité en fait, ça peut devenir dangereux dans le sens où voilà, une femme qui est sur le point d'accoucher, qui doit aller à l'hôpital. Il y a eu plusieurs cas où en fait elles ont dû accoucher dans la voiture en fait sur la route.
Je pense que c'est des très bons exemples et moi je savais pas très bien à quoi ça ressemblait un checkpoint. J'ai découvert qu'un peu, il y en a quand même beaucoup, un peu partout. On a vu quand même 4 checkpoints fermés, en tout cas 4 portes de ville complètement fermées qui empêchaient les villages de communiquer entre eux et d'être, ben voilà, tout simplement de pouvoir aller d'un village à un autre. Comme c'est quand même des endroits où il y a des collines, tu peux pas rouler n'importe où. Et quand les axes de communication entre les villages sont coupés, ben c'est très compliqué.
C'est très aléatoire. C'est-à-dire que en fait, le système ici qui marche, qui permet aux gens un peu de gagner du temps, dans chaque village, ils font comme des espèces de groupes sur leurs réseaux sociaux pour savoir en fait, la personne qui passe à n'importe quel checkpoint avertit est-ce que oui ou non il y a la présence militaire sur les barrages. Est-ce qu'ils sont... plus ou moins sévère sur la fouille. Est-ce qu'il y a des problèmes? Des fois, ça arrive que il y a eu pas très longtemps que ça un villageois qui, sans faire exprès, a jeté un mouchoir en fait de sa fenêtre au niveau du barrage et s'est fait tirer dessus. Ce qui a fait qu'ils ont fermé complètement le checkpoint et ça a fait des bouchons sur des heures. Du coup, ces personnes qui devaient passer pour rentrer chez eux ou aller sur le lieu de travail se retrouvent à faire des grands détours à d'autres barrages qui eux aussi sont souvent bouchés parce qu'il y a des fouilles. C'est très aléatoire, on ne peut pas savoir ni à quelle heure ni à quel endroit c'est leur bon vouloir.
Oui, c'est un peu du coup pour résumer une technique coloniale de on ne peut pas savoir quand est-ce que les barrages vont fermer et c'est un contrôle total de l'occupation israélienne de tout le territoire de Cisjordanie, tout le territoire palestinien. Je pense qu'on, du coup, sur le plateau, effectivement, nous sommes aussi avec Bilal. Je pense que tu voulais peut-être lui poser quelques questions.
Du coup, on voudrait savoir comment était la vie à Hawara avant, le 7 octobre, et quelle différence maintenant ou difficulté tu peux avoir remarqué ou vécu en fait après le 7 octobre.
En ce qui concerne la situation à Hawara, avant le 7 octobre et après le 7 octobre, il n'y a pas de grande différence. C'est une petite ville, un village sous occupation. Donc, on a vécu des situations très compliquées dans ce village. Et c'est évidemment un village commerçant. Il y a des commerces, il y a des boutiques, il y a tout, et la vie est active. Avant le 7 octobre, le village souffrait des problèmes avec les colons, qui venaient à Hawara, qui attaquaient les gens. Ils voyaient qu'il y a de la vie à Hawara, et ça ne leur plaît pas. Qu'il y ait de la vie, de l'évolution, ça ne leur plaît pas du tout. Ils veulent voir n'importe quelle économie de n'importe quelle ville ou village palestinienne en faillite. Ils ne veulent pas voir de ville qui continue à avancer. Mais ils ont beaucoup essayé. Ils ont commencé avec une route pour les colons, bien sûr. Ils ont fait une route pour les colons qui a pris à peu près 100 hectares à Hawara. Le souci, ce n'est pas uniquement qu'ils ont fait une route. Le souci est qu'après avoir fait cette route, il est interdit de construire à moins de 500 mètres de la route, à gauche et à droite. Donc, ils ont pris 100 hectares pour la route. Et tu imagines, à ça, 500 mètres de chaque côté de la route, il n'y a plus moyen de construire un Hawara. Et puis, il y a aussi la colonie qui se nomme Itzar, qui est la plus féroce colonie présente dans la Cisjordanie. Ils sont connus à l'échelle mondiale pour leur férocité, leur violence, leur rancœur envers le peuple palestinien. Bien sûr, ils nous créent plein de problèmes à Hawara, avec des incendies, des fusillades, des tueries, beaucoup. Tout ça, c'est disponible sur les chaînes YouTube, ceux qui le font à Ouara. Et par-dessus tout ça, l'occupation a fermé des barrières à Ouara, comme une petite prison. Nous sommes fatigués, touchés, lorsque, par exemple, nos enfants veulent aller à l'école. Ils sont fatigués par la route pour aller à l'école. Au lieu de prendre 5 minutes pour aller à l'école, ils prennent maintenant 30 à 45 minutes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fermé toutes les routes à l'intérieur de Ouara et à l'extérieur. Du fait que la situation à Ouara a empiré parce qu'ils ont fermé toutes les barrages, toutes les routes des entrées de Ouara, actuellement, l'économie de Ouara s'est effondrée. Il n'y a plus de travail, les boutiques sont vides. La plupart des commerces sont partis d'Ouara. Les commerces sont quasiment inexistants maintenant dans Ouara. Et cette situation, ce n'est pas uniquement à Ouara, c'est la situation dans toute la Cisjordanie. La même situation qu'à Ouara, Ouara n'est qu'une partie, un exemple de ce qui se passe en Cisjordanie.
Je veux te poser la question du coup, comment toi, tu as vécu certaines différences en fait après le 7 octobre ? نسألك هسا انت كيف شفت اختلاف انت شخصي في حوارة يعني لما بدك تروح هناك بس هيك
هسا بالنسبه للوضع بعد 7 اكتوبر طبعا
en ce qui concerne la situation après le 7 octobre il y a eu beaucoup de changements. Par exemple, je faisais des achats dans la ville de Naplouse. En ville, les prix sont meilleurs. J'allais chaque semaine, comme toutes les familles qui ont des voitures et qui peuvent aller acheter leurs affaires et rentrer à la maison. Actuellement, je ne peux aller à Naplouse que tous les 4, 5 ou 6 mois. Des fois, je ne peux pas y aller à cause des barrages qui se trouvent autour de la ville de Naplouse. Je souffre de ce problème, mais c'est un plus grand problème pour les employés qui se rendent en ville, qui par exemple éduquent les enfants dans les facs et tous ceux qui ont des obligations qui sont obligés de se rendre à Naplouse. C'est une souffrance aussi pour les étudiants d'université. Des fois, ils rentrent chez eux à 22h, 23h, voire minuit, en ayant terminé leur cours vers 15h. Donc oui, les souffrances sont grandes pour tout le monde, tout type de personnes palestiniennes. Ce n'était pas comme ça avant le 7 octobre. Il y avait des difficultés et des checkpoints, mais après le 7 octobre, il y a eu une grosse différence. L'occupant israélien a augmenté la violence, leurs pratiques, leur brutalité, les coups, et même quand tu passes un barrage, si tu bois un jus de fruits, tu as peur de le jeter par la fenêtre. Pourquoi ? Parce que c'est une situation qui s'est passée il y a peu, dans un village voisin, qui s'appelle Hourif. Un homme qui avait 55 ans a jeté sa bouteille de jus par la fenêtre et il s'est fait tirer dessus par les soldats. Voilà, c'est pour cette raison. Ce sont les choses qui se passent ici.
Tout à l'heure, j'ai raconté la même histoire, sauf que j'ai dit qu'il a jeté un mouchoir. Ouais. Il a dit que c'était une canette. Du coup, il y a un petit décalage dans l'histoire.
C'est quelque chose de pas très grave, en tout cas.
Ana kharrafet mouch kazazi. Qultek
la kazazi plastique fadi.
Hi hek, bas ana hakayt enno mihrami. كزازي هي أصلا
لأنه كان له طول هالكزازي.
En ce qui concerne la situation à Hawara, nous avons comme problème la nouvelle route du contournement qu'ils ont construit, qui étouffe le village, et en ce qui concerne la colonie de Hitsar, aussi, elle nous étouffe. Il n'y a plus moyen de construire. Il y avait chez la population de Hawara un seul espoir qui était le mont Ras Zaid. C'est la seule région qui restait où les habitants pouvaient construire. Mais après le 7 octobre, un peu après, 5-6 mois, ils ont fait un nouvel avant-poste de colonie là-bas. Ils ont pris le contrôle de toute la montagne. Ils ont interdit à tout le monde la récolte des olives et de labourer les terres, des terres palestiniennes. Et bien sûr, il y a beaucoup de maisons palestiniennes là-bas qui sont menacées de destruction. Donc la situation à Hawara est très compliquée et très mauvaise. Celui qui ne connaît pas Hawara peut venir voir de ses propres yeux la réalité, voir la situation plus clairement. Elle est visible. Les colons et l'occupant essayent par tous les moyens d'interdire l'élargissement du village pour pousser les habitants à partir du pays. Évidemment, les gens ne partent pas de leur pays, ni de leur terre. Les gens sont accrochés et rattachés à leur terre, parce que c'est la terre qu'ils ont héritée de leur grand-père, de leur grand-mère, depuis des générations. C'est notre situation, et c'est la situation de tous les gens de manière générale, ici.
Tu serais venu, tu aurais connu la Palestine avant le 7 octobre. Tu l'aurais vu dans les visages des gens. C'est un peuple super souriant, chaleureux, toujours à vouloir inviter surtout les étrangers au final, leur montrer notre culture, notre beau pays, nos traditions, nos plats, nos coutumes, tout. Et après le 7 octobre, c'est toujours le cas, mais moins. Ils sont beaucoup moins souriants, ils sont fatigués, ils ont plus la misère du monde et le poids de mille choses sur eux qu'ils le sont moins. Ça se voit à leur visage qu'ils sont plus fatigués, qu'ils sont malheureux. Il y a eu beaucoup des membres de leur famille qui se font emprisonner. Ils ont accès à beaucoup moins de choses. Leurs moyens financiers sont beaucoup plus compliqués qu'avant. La plupart ici travaillaient beaucoup en Israël. Après le 7 octobre, c'est fini tout ça. Il n'y a plus de laissez-passer pour ces personnes qui travaillaient en Israël pour amener les besoins en fait de la famille ici en Palestine. Et voilà.
انا بطلب طلب من جميع الناس اللي الشرفاء اللي بيتضامنوا معنا.
Nous bien sûr en Palestine, il est vrai que la situation économique est mauvaise et malheureuse. Mais Dieu merci, nous avons ici de l'huile d'olive. Nous mangeons de l'huile et du za'atar. On peut vivre de ça. Nous n'avons ni besoin d'argent, ni d'armes, ni rien de tout ça. Nous avons besoin d'un peuple. Toute personne qui vient en Palestine, de n'importe quel pays, qu'il raconte par la suite, dans son pays, ce qui se passe en Palestine et qu'il encourage à venir voir en Palestine la situation qui est chez nous. Que celui qui voit la situation en Palestine, lorsqu'il revient dans son pays, doit raconter la réalité qu'il voit de ses propres yeux. Nous ne voulons pas qu'il raconte une publicité, mais qu'il raconte la réalité, quelque chose qu'il a vécu lui-même et qui arrive à la grande famille qu'est la Palestine. Il y a beaucoup de propagande faite par l'occupation israélienne qui essaie de nuire à notre réputation par n'importe quel moyen. Donc nous, on va essayer de contrer ce phénomène, que les gens racontent ce qu'ils voient au gouvernement, aux gens de chez eux, à leurs proches. Pourquoi ? Pour que les personnes puissent mieux comprendre la cause palestinienne et qu'ils sachent les souffrances qui font souffrir les Palestiniens.
C'est intéressant de le dire, du coup, qu'en fait, ils ont fait une nouvelle route qui soit plus dédiée, en fait, aux colons, aux citoyens israéliens, aux soldats, pour qu'on évite de prendre tout le temps la même route et qu'elle soit plus fluide, parce que c'était une route qui était tout le temps bouchée. C'est quelque chose que tu n'as pas vu parce que c'est plus le cas maintenant. Mais avant, c'était des heures sur la route principale de Huwara, des accidents, beaucoup. Et ça peut être des accidents entre Arabes, Palestiniens, entre Palestiniens et colons, et ça, c'est catastrophique. C'est, même si le Palestinien n'est pas en tort, la situation va se retourner contre la personne, le Palestinien. Et du coup, ils ont fait une route qui est censée du coup, fluidifier le passage, et malgré ça, les colons s'amusent, entre guillemets, à passer toujours par Huwara. Et ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, et je pense que tu étais présent, quand il y a eu une fusillade avec un colon qui en fait passait par la route, et ça a énervé les Palestiniens, c'est quelque chose de normal, hein, quand tu fais des allers-retours pour embêter, c'est quelque chose de normal que ça embête, et qui a fini par sortir, parce qu'ils sont tous armés, on le rappelle, ils sont tous armés, qui a fini par sortir une arme et qui a tiré sur le tas. C'est pas sur la personne qui a acquis ça, c'est sur le tas. Quand il se passe quoi que ce soit et que les soldats ordonnent en fait à tous les commerces qui se trouvent sur la route de Huwara de fermer, je suis concentrée. J'ai plus les mots du coup.
Les gens ils ferment le commerce.
Ils ferment, du coup les personnes ferment leur commerce, mais ils ont beaucoup de pertes. Par exemple les boutiques de pâtisserie, les pâtisseries. Ouais. Quand ils préparent leur pâtisserie, qu'ils doivent le fermer. Ouais. Toutes les pâtisseries fraîches. Ah, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ou bien ceux qui tiennent les kebabiers au final, qui préparent leur viande, leur marinade et tout ce qui s'ensuit. Quand la boutique doit fermer, c'est des pertes. Ouais.
Après avoir fait la route de contournement à Huwara, qui était censée être une route de substitution, avec comme motif que les Israéliens y passent en sécurité et qu'ils ne passent plus par Huwara. C'était leur excuse de faire une route pour les colons, pour ne pas qu'il y ait de danger pour eux. Jusqu'à aujourd'hui, cette route est exploitée. Mais les colons passent par l'ancienne route de Huwara. Quelle est la raison pour laquelle ils passent par cette route? Ils provoquent les habitants. Ils cherchent à créer n'importe quel problème à Huwara. Par exemple, les colons passent avec leurs armes, des M16 à la fenêtre, pour être prêts à n'importe quel moment à tirer sur les habitants. Il y a 2 jours, il y a eu un incident. Évidemment, ça arrive souvent. S'il y a un jeune qui lance une pierre sur un colon, alors il ferme Huwara pendant 2 jours. Ils utilisent cette technique pour nous enlever notre économie. Et naturellement, maintenant, notre économie, de manière générale, est faible. Il y a plein de gens qui ne font plus rien, car il n'y a plus de travail. C'est la même chose. Ils nous ont interdit Al-Makassa, une aide européenne américaine fournie à l'autorité palestinienne pour compenser un pays sous occupation. C'est un système de compensation qui nous vient de l'autorité palestinienne. Tout comme jusqu'à aujourd'hui, Israël refuse encore de donner les taxes qu'elle récolte et est censée redistribuer à l'autorité palestinienne. Et c'est l'autorité palestinienne qui paye les salaires des employés, des professeurs, des maîtresses. De ce fait, aujourd'hui, ils ne reçoivent plus de salaire. Tout ça, ça influence négativement notre économie. Ils ont aussi fermé les frontières aux ouvriers qui travaillaient en Palestine de 48, ce que vous, occidentaux, appelez Israël. Ce sont ces ouvriers qui ramènent l'économie au pays. Ils leur ont fermé l'accès. Les ouvriers ne peuvent plus travailler. Il y a des privations qui ne sont pas normales dans le pays. La population n'a plus rien. Il y a des gens qui ont vendu les meubles de leur maison, des gens qui ont vendu
l'or qu'ils avaient, des gens qui ont vendu des terres qu'ils ont, des gens qui ont vendu leurs voitures, des gens qui sont arrivés au point qu'ils ne peuvent plus payer l'électricité pour leur foyer. Des gens n'ont plus de quoi payer l'eau, pour boire de l'eau. Ils ruinent la situation économique du pays. Évidemment, c'est une nouvelle stratégie à laquelle ils travaillent depuis le 7 octobre. Ils veulent te pousser à émigrer par n'importe quel moyen. Mais cette chose-là ne va pas fonctionner avec le peuple palestinien. Le peuple palestinien est dans ses terres. Comme les Gazaouis ne vont pas partir, nous aussi, nous n'allons pas partir. Alors pour cette émission, je voudrais faire des remerciements tout particuliers. D'abord, aux internationaux de Howara, à ceux qui ont été mes compagnons pendant plusieurs jours. Merci aussi au travail collectif, à l'esprit collectif, au collectif, qui a permis que moi je ne sois pas arrêté et expulsé. Et merci à la famille. Merci à la famille qui m'accueille, qui me nourrit, qui me donne tout. Merci beaucoup.
Thank you. محمد الفارس يا الجعفر المكوار خلص العدادايس ما همك الأخطار يا محمد الفارس.